Avant de démarrer cet épisode, je voulais remercier notre premier sponsor qui permet de redonner vie à ce podcast, c'est Eymundo, une assurance en ligne de qualité que j'apprécie beaucoup parce que elle t'accompagne tout au long de ton voyage grâce à une application et un service d'assistance réactif. Ils sont disponibles par téléphone 24 heures sur 24 et surtout parce qu'avec cette assurance, il n'y a pas de petites lettres, ni de chichi, tout est simple, rapide et sans processus administratif interminable pour le remboursement. Et tu me connais, je déteste l'administratif, donc si tu pars bientôt en voyage, va faire un tour sur leur site Heymundo.fr, Heymundo.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour.
Regarde-moi ça!
J'ai l'impression de faire la dégustation.
Ouh! Ça, c'est de l'homme, je crois! Ça, c'est magique, ça!
C'est absolument dément.
Et le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Oh, ok, bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça la vie. Numéro.
Bonjour internaute, aujourd'hui je t'emmène en Albanie et à la rencontre d'un berger albanais. En gros j'étais dans un trip qui a duré à peu près un mois quand je traversais cette partie un peu des Balkans en Europe et je restais un mois en Albanie et dès que je suis arrivé en fait en Albanie on m'a très vite recommandé franchement une des zones les plus belles d'Europe que j'ai vues, c'est la vallée de Valbona. C'est tout au nord de l'Albanie et en fait c'est la fin de la chaîne des Alpes et là-bas il y a vraiment c'est vraiment je dirais l'Europe et les Alpes d'il y a 40-50 ans, vraiment à l'ancienne avec des maisons ultra pittoresques, vraiment très rurales et surtout il y a aussi encore beaucoup de forêts primaires. Les forêts primaires, encore une fois, c'est des forêts qui n'ont jamais été coupées ni replantées, c'est des forêts qui sont originelles, qu'on n'a jamais touchées. Et là, t'as des bassins d'eau bleu turquoise qui se baladent avec des roches incroyables. Bref, des fois, je me baladais là-dedans, j'avais l'impression qu'il y avait... J'ai dit, Frodon, t'es dans le coin, c'est chez toi, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, genre, t'as des petites mousses de fou avec une végétation et des rayons de soleil qui traversaient l'espèce de chaîne centenaire qui se baladait là-dedans. Tu dis, ouais, mais où est-ce que je suis? Donc, vraiment un lieu magnifique. Et d'ailleurs... un moyen pour rejoindre ce lieu, c'est tu prends le bateau et tu remontes une grande rivière et ça te donne une impression de fjord qui est assez époustouflante. Ça te dresse le décor avant même de mettre le pied dans le parc national de la Valbona. Et du coup, bah évidemment, t'imagines bien que dans ce genre de parc national où il y a de la montagne, qu'est-ce qu'on fait? Bah on fait de la rando. Et en fait, ça c'était un trip qui a duré 2-3 mois que j'avais fait. Je crois que c'était en 2013 ou quelque chose comme ça. 2013-14, et qui avait duré 2-3 mois dans cette région d'Europe, Croatie, Monténégro, etc. Et j'avais pris ma tente et mon réchaud, que j'avais jusque-là jamais utilisé. Parce que clairement, c'est des zones qui sont quand même assez urbanisées, et j'étais allé plutôt dans les villes, je m'étais déplacé en bus. J'avais pas trop pris le temps vraiment d'utiliser ce nouveau matériel. J'avais pris en plus les petites tentes ultralight, qui pèsent un kilo avec un réchaud, soit gaz, soit essence, enfin un truc un peu stylé. J'étais trop fier que finalement, j'ai pas utilisé jusque là. Donc je dis merde. Donc je me suis dit ok, c'est la bonne occasion. Donc je me prépare et je me chauffe. Il y avait une espèce de transalpine. Qui était assez ouf à faire, où fallait passer une transalpine, c'est quand tu passes d'un flanc d'une montagne à l'autre en passant par un sommet. Et en gros, on m'avait dit, ouais, donc c'était quand même au mois de juin, juillet. Mais on m'a dit, bon, tu vas comme ça parce que t'es pas trop équipé, il y a encore de la neige un peu, tout ça. Je suis là, je suis de la neige. Enfin, bah, on sait pas trop, ça fait longtemps qu'ils en sont pas allés là. En général, les gens ils prennent le sentier du bas, mais fais attention et tout. Là, je sais, bon, non, enfin, je pense pas qu'il y ait de neige là, il fait quand même très très chaud. Vas-y, on y va. Donc, j'avais fait des petites courses dans le petit village avant. Donc, typiquement, les pâtes, les boîtes de thon, des sachets de thé, des petits trucs à la con pour des barres de céréales pour le petit-déj. Et en gros, de toute façon, ça devait durer 2 jours, une nuit de bivouac qui est un peu en altitude, et c'était parti. Et puis, je pars en voyant que la météo était pas folle, tu vois, genre, tu sais, les espèces d'éclaircies nuages. Tu sais, les éclaircies, t'en vois, juste après, tu vois un nuage. Et puis, du coup, c'est couvert. Mais il y a encore après une éclaircie. Ce qui fait que tu dis, oh, vas-y, c'est bon, j'y vais, il y a quand même un peu de soleil. De toute façon, sinon, on n'ira jamais. Bon, la montagne, ça se découvre vite. Mais évidemment, ça se couvre vite. Et on va le savoir très vite. Donc, je pars à fleur au fusil et là je me rends compte aussi que ça fait longtemps que j'avais pas marché hein, avec un sac à dos un peu lourd, parce que finalement quand t'es en backpack, bah ton sac à dos tu le portes de l'auberge jusqu'au bus, du bus jusqu'à l'auberge, et c'est à peu près tout. Enfin, tu l'as jamais vraiment sur le dos, tu l'as cul un peu dans les transports, alors que là c'est différent. Là tu pars avec tout ton matériel que t'as en permanence d'habitude pour voyager, plus la bouffe, plus l'eau. Et même si c'est deux jours, ben t'arrives vite à 15-20 kilos. Enfin, tu rajoutes. Moi, je pars en général, je voyage avec 10-11 kilos max. Et là, j'étais facilement à 16 kilos, 8 kilos. Et franchement, les 6 kilos en plus avec mes petites gambettes, à chaque pas, waouh, au bout d'une heure, j'étais pas bien. Et je me dis, hein, en plus, il m'avait filé, j'étais parti à l'arrache. J'avais pas pris Maps.me en plus, qui est espèce d'appli que tu peux avoir en offline, pas besoin de réseau, qui trace l'itinéraire avec le point GPS, que le point GPS, même quand t'as pas de réseau, il vraiment c'est un autre justement réseau, c'est le réseau GPS, ce qui fait que ça te donne ta position et ton signalement sur la carte. J'avais pas pris de carte IGN non plus. Il m'avait filé, tu sais, les vieux plans. Au refuge, je me dis, tiens, prends le petit plan là. Et c'est un plan un peu, c'est un schéma en fait, c'est pas un plan. Et je voyais quand même qu'il y avait des petites maisonnettes, des petits trucs. Enfin, tu vois, je me suis dit, je pars confiant, je vois à peu près où ça va. Et il me dit, ouais, dors là si t'y arrives. Si t'y arrives. Là, déjà, le genre de phrase qu'encourage. Et je pars, mais genre au bout d'une heure, il commence à pleuvoir. Et là, le truc, c'est que je n'avais pas pris. La seule chose que c'est bien un truc que je prends tout le temps, mais tout le temps, parce que ça pèse pas très lourd et c'est essentiel. Et surtout, c'est le truc que tu veux prendre, mais tu veux jamais t'en servir. C'est un poncho. Le poncho, tu sais, le grand poncho que tu mets par-dessus toi, un ciré, appelle-le comme tu veux, qui te recouvre toi et ton sac. Celui où, bah, quand t'es en Asie ou sur un scout ou qu'il y a la mousson ou un truc, boum. Même si c'est pendant 4 minutes, tu le mets parce que bah c'est tellement des grosses rinçades que t'es trempé jusqu'à l'os et quand ton sac même il est mouillé. À l'intérieur, va le faire sécher toi après, tu vois. Va le faire sécher, surtout s'il y a une semaine après qui s'enchaîne de mauvais temps, ça pue le rat crevé, le chien, le clébard mouillé. Bref, c'est l'enfer, surtout pour te réchauffer ou si même ton duvet est mouillé. Bref, clairement, je me suis dit, mais putain, mais comment j'ai pu oublier mon poncho? Et évidemment, je m'en étais aperçu juste avant de partir. Et j'ai pris quoi? J'ai pris des sacs poubelles. Oui, j'ai pris des sacs poubelles au cas où, tu vois, je me suis dit, bon, je mettrai mon sac dedans, et puis moi, bon, je serai un peu trempé. Sauf que ça commence à pleuvioter, évidemment, voilà, je fais des trous dans le sac poubelle pour mettre les anses à moitié du sac, mais bon, c'est des anses, enfin, c'est la merde, enfin, ça couvrait mon sac, moi, avec un pauvre sac poubelle, tu t'imagines, bien ridicule. Et en plus, ça couvre pas la tête, donc finalement, si t'as pas de capuche, tout dégouline le long de ton cou et le long de ton dos, et au final, tu deviens trempé, tu vois. Et là, tout de suite, le côté forêt primaire, le côté un petit peu, tu vois, super rustique, où il n'y avait personne, moins fun. Là, je suis ambiance, bon, la montagne, c'est quand même la nature puissante, faut clairement pas blaguer avec elle. Il y avait encore de la végétation, c'était pas encore la forêt, tu sais, la montagne rocheuse, où tu sais, genre, si tu regardes sur le côté, qu'il y a de la brume et que tu fais un faux pas, tu tombes dans un précipice, non, c'est pas ça. C'est de la forêt, un peu d'altitude, avec personne. Sauf que là, la température, elle commence à chuter. Je commence à avoir de la brume, je commence à avoir froid, je commence à être trempé jusqu'aux os, et je commence à me dire, mais en fait, il n'y a aucun moyen que j'aille plus haut, parce que plus haut, ça veut dire plus froid, plus chiant, plus dans la merde, tu vois. Et je me dis, bon, je vois que j'ai l'air d'être pas trop loin par rapport à 2-3 repères, enfin à ce schéma, cette espèce de carré qui ressemble à des maisons, à un petit village. Je vais essayer d'y aller là d'abord en attendant que ça s'arrête, pour pouvoir après, bah tant pis, redescendre et refaire à mon heure et demie de marche dans le sens inverse. Parce que j'étais quand même parti le matin, donc il me restait encore bien la journée, tranquille. J'avance, et là je vois, mais pas du tout un village. Je vois deux maisonnettes, mais c'est même pas une maisonnette, c'est une espèce de, tu sais, de petite bâtisse en pierre qui devait faire 1m85 de haut avec un toit en tôle. Mais sauf que je vois un truc qui là me dit « Yes !» Oui, oui, c'était de la fumée qui s'échappait de la petite cheminée, espèce de petit tuyau du trou de tôle qu'il y avait. Et là, en fait, t'as quand même, alors t'as beau te cailler, t'as beau être fatigué, t'as quand même un moment d'hésitation où tu te dis, bon, je parle pas albanais, ok, le mec doit pas être super fluent anglais. Et puis tu vas chez des gens, tu toques, c'est tout petit, il y a qu'une, tu dis, enfin, qu'est-ce que je vais dire, tu vois, qu'est-ce que je vais faire, Enfin, t'arrives pas en mode génial, salut, coucou, je suis dans la merde. Bon, est-ce que quelqu'un a une petite place à me faire? Je me poserai bien à côté d'un feu. Évidemment, non, t'es penaud. T'as quand même fait de la merde. Donc, t'as l'impression que t'as un peu été naze. Poser ma tente là, ça sert à rien. J'étais trempé, j'avais froid. Enfin, c'était nul. J'étais mauvais sur ce coup-là. Et puis, en fait, tu sais même pas que tu prends ton courage à main. Tu prends ton dépit à deux mains. Tu te dis, ok, j'y vais. Et je frappe à la porte. une espèce de porte un peu, c'était pas la porte en bois, c'était une espèce de porte avec plusieurs épaisseurs, tu sentais pour, parce qu'à mon avis l'hiver, il y a 4 mètres de neige. Je toque, un mec ouvre, tout petit, et tu sais, il a le balai, tu vois, la peau un peu burinée, la petite moustache bien ferme, bien taillée, un petit béret, la chemise à carreaux. Il me regarde, pas trop vieux, je dirais 35, 40 ans, tu vois. Il me regarde, une fraction de seconde s'écoule. Je te jure, c'est pas genre, tiens, qu'est-ce que tu fous là? Il me regarde. Et tu sais, il se tourne, en gros, bah, rentre, tu vois. Ouah, j'ai fait, ouah, j'ai même pas eu le temps de dire bonjour et tout. Je m'assois, je pose mon sac. Il y avait il y avait même pas d'éclairage, il y a une pauvre ampoule qui éclairait le fond d'un tiroir à peine, tu vois. Et il y avait une mini fenêtre, tu sais, avec. Qui laissait passer le peu de lumière qu'il y avait à cause de l'averse. Et puis il me fait, vas-y, assis-toi. Il y avait un petit poêle au fond. Pareil, tout était petit, un mini poêle. Et la pièce, elle devait faire, je sais pas, honnêtement, elle devait faire 2m50 sur 2m50, tu vois, un truc comme ça. Et 70% de l'espace était pris par un énorme lit où je m'aperçois au bout de 3-4 minutes qu'il y a un vieux grand-père qui dort dedans. Mais tu sais, qui dort en mode sur le dos. On voit pas trop qui dort parce qu'il respire, enfin, tu vois, sa respiration fait pas le gros, il y a pas ça. Et donc, je dis, le gars, c'est un macabé, tu vois, ou c'est le vieux grand, enfin, tu sais, c'est le mec qui garde un peu, genre, en relique, c'est bizarre, tu vois, très bizarre. Donc, j'arrive, bon, je suis content, je suis au chaud quand même, parce qu'il y a un petit poil à côté. Et là, le mec, il commence à me parler en albanais, évidemment. Et là, il commence à se passer un des trucs les plus magiques que j'ai vécu en voyage. Je suis resté dans cette cabane, en tout cas avec lui, en tout cas, là, à parler, je pense, une heure et demie. Une heure et demie à se parler quasiment non-stop, tu vois. Et là, tu vas me dire, mais s'il parlait albanais et toi, tu parlais pas albanais ni anglais, tout ça. Et je te jure, première fois de ma vie que ça m'arrive à ce moment-là, c'est le gars me parlait et je lui répondais. Genre, je disais, mais tu viens d'où? Donc, je disais français. Il me fait, ah, ok, cool. Il me pose une question. Je suis, ouais, bah, en fait, ouais, j'ai pas de frère et sœur. Je dis, ah, ok. Et en fait, ça fait combien de temps que t'es là? Un mois. Et en fait, avec mes réponses en français, c'est comme si je peux pas t'expliquer comment ni pourquoi je devinais ces questions. Et dès que je faisais une réponse, c'est qui, avec les gestes, avec les mots, je me disais, ah, ok, ouais, je vois. Ok, cool, la réponse, cool. Et on a discuté, machin. À un moment, il y a des moments de silence aussi, évidemment. Il me roule une cigarette, je fume pas, moi je dis t'inquiète, vas-y, envoie ta cigarette, moi je suis là avec toi, tu me fais ce que tu veux, je prends, il me fait un petit thé, il me met au chaud, il me fait vas-y, talala. Et là je me dis, waouh, le gars me connaît pas. Le gars il a autre chose à foutre, c'est un berger, bon là il était au chaud, il pleuvait, etc. Il m'accueille, il me file un petit truc à boire, il me file une petite clope et machin. Et il m'accueille comme si j'ai l'impression que j'étais le poteau qu'il avait pas vu depuis 2 semaines. Tiens, bah, qu'est-ce que tu fous là? Vas-y, passe prendre un canon, un truc. Alors, il m'a pas sorti niol, il m'a pas fait le coup de, tu sais, des campagnards qui disent, attends, je vais te réchauffer, bouge pas. Mais c'était vraiment trop, trop gentil. Et là, à ce moment-là, il y a une femme qui rentre. Et je pense que c'était sa femme, tu vois. Et en fait, il m'explique, tu vois. Non, d'ailleurs, je dis une bêtise. Je dis, je fais comprendre, c'est ta femme. Il fait, non. Et en fait, il me fait comprendre que c'était sa sœur, justement. Parce qu'il me montre le grand-père, etc. Et je comprends que c'est des frères et sœurs. Et du coup, bah, en gros, lui, il part faire un petit tour. Il y a la femme qui est là. On rediscute un petit peu, bon an, mal an. Et là, elle me dit, mais elle voyait que j'étais au bout de ma vie. Alors, je discutais, mais tu sais, j'avais les yeux qui se fermaient à moitié, j'étais gelé. Elle me fait, vas-y, dors. Vas-y, allonge-toi et tout. Donc, imagine un lit qui est pas très grand, tu vois, c'est pas un lit king size. Je suis au fin fond d'une forêt en Albanie, il pleut, dans une petite cabane de berger, ça sent un peu le mouflon, tu vois. Alors à ce moment-là, t'es pas non plus au top de, tu vois, du clean, tu sors pas d'une salle de bain Hilton, tu vois, t'as pas les petits savons avec les petits échantillons qui te font sentir bon la lavande, et moi le premier d'ailleurs, donc les barres mouillées c'était moi, et je te jure, j'étais tellement au bout du rouleau, crevé, les os, mes os étaient mouillés. Je me dis, tu sais quoi, je m'en fous. Tu sais, c'est un peu genre, personne ne le saura, tu sais. Je me mettrai là et alors je m'en fous. C'est pas le honte, tu sais. Ça ferait tellement genre, tu dis, si quelqu'un me voyait là, un des potes, mais il se foutrait de ma gueule, tu vois. Enfin, mais là, tu dis, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de regard des gens. C'est genre d'ailleurs d'expérience qui te permet de te détacher du regard des gens. Où là, tu reviens vraiment à l'essentiel. Est-ce que ça m'est utile? Est-ce que j'en ai envie? Oui, non. Ok. Est-ce que je manque de respect à quelqu'un? Est-ce que j'enfreins une loi? Non, on m'a invité de mon cœur. Ah, tu sais quoi, je le fais, ça me fait du bien. Tu en penses que tu veux, mec. Bon, là, il n'y a personne, mais là, tu vois, je te le raconte et je m'en fous, je trouve ça génial. Je m'allonge. Je pense qu'en une fraction de seconde, je suis parti dans un sommeil, mais tellement profond, bah dans le chalet en bas, tu vois, dans la vallée. J'étais reparti là-bas en train de pioncer. Je me réveille. Je pense, une heure après. Eh, le grand-père était plus là. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il était pas mort, tu vois. Parce que potentiellement, j'avais encore ce doute au fond de moi. De me dire, eh, on sait pas, hein. On sait pas, parce que, bon, y a des traditions, on les connaît pas toutes, tu vois. Et je me réveille. Et la femme était re-rentrée quasiment au moment où je me suis réveillé. Elle me fait un petit regard, elle m'a refait un petit thé. Et là, je me dis, bon, va falloir que je redécolle. J'ai vu qu'il s'était arrêté de pleuvoir par la micro-fenêtre. Et je dis, oh, il est où, machin? Et je fais, bah, il est là-bas et tout. Je fais, attends, bouge pas. Et là, je décide de prendre mes affaires, de me remettre un peu, là, je m'enlève les crottes des yeux, là, hop, je reprends son petit thé. Et finalement, je lui file les 2 jours de bouffe que j'avais pris sur moi, et j'en ai pris un petit peu plus, tu vois. J'avais pris, tu vois, des boîtes de thon, des barres de céréales, du riz, etc. Et je lui file tout. Et elle commence à me dire, non, Jordan, garde et tout, le genre de truc qu'elle doit pas non plus, avoir tout le temps, parce que tu sens que eux, je pense que c'est des choses qui, tu vois, ils ont pas des petites sucreries sympas, d'ailleurs c'est très bien pour les dents, mais tu vois, des petits trucs un peu ça, parce que j'avais pris des sauces pour le riz, et je lui donne tout, et c'est vraiment, non, gêné, tu vois, genre pour montrer que c'était vraiment de l'hospitalité ultra gentille. Évidemment, elle veut pas, plus ça va, un peu gênée, elle s'en va, je lui laisse tout sur le lit. Ce fameux lit, dis donc, il s'en est passé des choses, et je remets mon sac. Je lui dis au revoir parce qu'elle était à côté de la maison dehors. Et là, je vais à 200-300 mètres voir le berger qui était avec ses bêtes. Et je lui remercie profondément. Je lui fais une grosse accolade et tout, machin. Enfin, une accolade, une poignée de main. Hein, parce que les accolades, c'est quand même très américain. Faut pas se la tenter non plus partout. Ça pourrait être mal pris. Et je m'en vais. Et je me dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? C'est quoi cette histoire, cette expérience de générosité pure, tout dans le sourire, la simplicité, le naturel du truc, c'est ça qui m'a le plus choqué, de me dire, waouh, naturellement gentil, naturellement accueillant, il cherche, t'es en galère, viens, terminé, t'as froid, je te réchauffe, tiens, prends une clope, pense ceci, etc. Et je me suis dit, mais quand t'as peur en fait de voyager, t'as peur de pas parler la langue, t'as peur de te retrouver dans des situations bizarres, dis-toi une chose, internaute, si t'es dans des bonnes intentions, que l'autre, tu le respectes, tu t'intéresses à l'autre, tu mets l'autre sur un piédestal, pas parce que genre, ouais, c'est exact, mais vraiment ce côté genre, waouh, merci, dans l'humilité finalement, où toi, tu t'es pas là, t'auto-flagelles à te rabaisser, mais genre, waouh, toi, merci pour qui tu es en face de moi, merci, même si tu offres rien, c'est je m'intéresse à toi, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire ce qui vient de passer. C'est une des rencontres qui m'a le plus marqué, parce que c'est un élan de générosité ultra simple, ultra concis, ultra puissant, et qui, dans l'idée, n'aurait jamais dû arriver. Et dans l'idée, tu vas pas déranger les gens, parce que t'as plein de pensées limitantes, je vais pas les déranger, tain, j'ai planté ma tente, de toute façon, vas-y, on a de quoi bouffer, on peut potentiellement se démerder, qu'est-ce que je vais lui raconter, ça, le temps va paraître long. Non, bah, si le temps il paraît long, tant mieux, parce que c'est un temps... Justement, le temps, il s'arrête. Tu vis un truc incroyable, un souvenir incroyable. Donc, la prochaine fois que bah, tu prends une mauvaise décision ou que tu es en galère, demande de l'aide aux gens. Et sois convaincu que tu vas y arriver, sois dans une belle énergie et t'attireras les bonnes personnes. Crois-moi, à chaque fois, ça s'est passé comme ça pour moi. Et cette anecdote-là, pour moi, c'est un beau symbole et c'est un bel exemple qui représente le fait que tu t'en sortiras toujours et la vie te mettra toujours les bonnes personnes, même... Il faut être patient parce que vraiment tu dis, mais non, mais là je suis vraiment, vraiment, vraiment dans la merde. Mais c'est quand t'es au fin fond du fion de la merde que t'as les plus belles choses qui se passent.